France Musique.
Bonjour, bonjour. Et merci d'avoir choisi France Musique où nous sommes ensemble au moins jusqu'à 9h. Elle a hâte de monter à nouveau sur scène, à la scène musicale. Laurence Equilbet a ressorti sa baguette, premier concert dans quelques jours. Alors, dans quel état d'esprit la chef d'orchestre est-elle? Elle est notre invitée tout à l'heure, ce sera à 9h moins le quart. Au sommaire du journal de Laura Dulieu à 8h30, c'est aujourd'hui le moment tant attendu depuis 3 mois par le monde du cinéma, la réouverture des salles. Certains cinémas ont même projeté des films là, cette nuit à minuit, reportage dans le journal de 8h30. Et puis, quand les musiciens de l'orchestre de la Suisse romande partent en tournée dans les cantons romands, ils le font en roulotte. C'est l'histoire du jour. Suzanne Gervais nous la raconte tout à l'heure dans 25 minutes. Autre rendez-vous de 7h à 8h40. Classique Info, toute l'actualité musicale. Ce sera comme tous les jours avec Sophia Anastasio.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et très bon réveil en musique. C'est au jus d'orange qu'on trinque avec Francis Poulenc. Un parfum de voyage avec cet embarquement pour Cythère, chef-d'œuvre de Watteau, et délicieuse musique signée Francis Poulenc pour deux pianos avec Marcella Ruggeri et François Chaplin. François Chaplin, il est également directeur artistique d'un festival, le festival de Pont-le-Voix, c'est à côté de Blois, dans le Loir-et-Cher. Et bonne nouvelle, eh bien ce festival aura bien lieu en juillet avec une jauge réduite à 240 places au lieu des 450 au Manège Royal. François Chaplin qui jouera justement à deux pianos avec Geoffroy Couteau, ce sera le 25 juillet. Autre bonne nouvelle, très bonne nouvelle, on en parlait il y a quelques instants. Ça y est, les cinémas rouvrent aujourd'hui et dans des conditions sanitaires assouplies. La salle va pouvoir être remplie à plus de 50%. Il faudra quand même un siège libre entre chaque groupe de personnes. Certains cinémas reprogramment des films qui étaient sortis peu de temps avant le début du confinement, à la mi-mars. Et puis d'autres, comme le Grand Rex à Paris, eh bien, ils ont choisi de mettre en avant des classiques à grand spectacle qui se révèlent vraiment sur le grand écran, l'écran géant, comme ce film de 1962, plus de 3h30, dont vous allez certainement reconnaître la bande originale. La bande originale de Laurence d'Arabie, bien sûr, film de David Lean, musique signée Maurice Jarre, avec ici le Philharmonia Orchestra dirigé par Tony Bremner. C'était pour la version Director's Cut, le montage du réalisateur sorti en 1989, une version pour laquelle la musique avait été réenregistrée. C'est l'un des plus beaux passages de France, le passage Pommeraye, où il y a 60 ans tout juste, en juin 60, Jacques Demy tournait son premier long métrage, Lola, avec Anouk Aimée. Eh bien, ce passage Pommeraye a servi de salle de concert au chœur d'Angers Nantes Opéra. C'est à quelques centaines de mètres de l'Opéra Gralin. La vidéo a été diffusée hier matin au lever du jour pour la fête de la musique. Et c'est l'hymne au soleil des Indes galantes que les choristes avec quelques instrumentistes ont choisi de chanter. C'est à voir sur le site d'Angers Nantes Opéra. Ici, c'est un autre chœur de la région, le chœur de la Symphonie du Marais, qui interprète cet hymne au soleil de Rameau.
Thank you.
Brillant soleil, jamais nos yeux, l'hymne au soleil des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, avec ici Emery Lefebvre, le chœur du Marais, la symphonie du Marais, dirigée par Hugo Rennes. Comme tous les jours, cette semaine encore, une voix de l'été de France Musique a choisi pour nous un disque, et ce matin, c'est Marina Shish pour cette deuxième saison, après avoir passé l'année dernière l'été à raconter le destin de Ginette Neveu. La violoniste nous fait découvrir de nombreux violonistes, justement, des 19e et 20e siècles, femmes exceptionnelles et malheureusement peu connues, des parcours de vie passionnants où la petite histoire rencontre la grande, des pionnières, des suffragettes, des femmes scandaleuses parfois, héroïques et anti-héroïne, un voyage dans le temps et dans l'espace qui permet de repenser la place des femmes dans l'histoire des grands violonistes. Marina Shish, c'est donc elle qui a choisi ce matin l'une de ces violonistes.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour cher Jean-Baptiste, bonjour chers auditeurs. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une œuvre, ou plutôt une interprétation. Parce que l'œuvre, vous la connaissez sans doute très bien. Il s'agit du premier mouvement du concerto pour violon de Tchaïkovski. Mais la version d'aujourd'hui, vous ne l'entendez pas souvent sur les ondes. C'est la grande violoniste Erika Morini, accompagnée par les New York Philharmonic, avec, tenez-vous bien, Igor Stravinsky à la baguette. Cette version est exceptionnelle à plus d'un titre. Stravinsky dirigeait rarement des œuvres d'autres compositeurs. Quant à notre soliste, Erika Morini, elle fut l'une des plus grandes violonistes du XXe siècle, si ce n'est la plus grande. Alors, pourquoi ne parle-t-on pas d'elle plus souvent? Et des autres grandes violonistes du passé d'ailleurs? Car il y en a plein, et des merveilleuses, croyez-moi. Alors j'ai hâte de vous les faire découvrir ou redécouvrir tout au long de l'été. En attendant, mettons-nous en doigt avec cette version magistrale du concerto de Tchaïkovski pour violon avec la grande Erika Morini.
Thank you.
là, tout le monde connaît, ça gratouille un peu, mais l'oreille, elle s'habitue en fait assez rapidement. Le premier mouvement du concerto pour violon de Tchaïkovski avec Erika Morini. Je vais pas vous raconter ma vie, mais là, j'étais en train d'échanger avec Marina Chiche et lui dire, mais je connaissais même pas son nom, Erika Morini, l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Igor Stravinsky lui-même, un enregistrement de 1940. Erika Morini, dont on parlera avec Marina Chiche cet été. Mon cœur est un violon, saison 2. Ce sera tous les dimanches à partir du 5 juillet de 17h à 18h sur France Musique. Marina Chiche, la violoniste, c'est la même. Elle sera en concert dans la Cour des Invalides, un concert enregistré ces jours-ci et diffusé sur les réseaux sociaux. Ce sera lundi prochain, lundi donc 29 juin. Il est 8h20, vous écoutez France Musique.
The Lord above gave man an arm of iron, so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, someone else will do the blinking work. With a little bit, with a little bit of luck, you'll never work. The Lord above made man to help his neighbor, no matter where, on land or sea and foam. The Lord above made man to help his neighbor, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when he comes around, you won't be home. With a little bit, with a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you won't be home. Or you can walk the straight and narrow, but with a little bit of luck, you'll run amok. Gentle sex was made for man to marry, to tend his needs and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but you can have it all and not get hooked. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you won't get hooked. With a little bit, with a little bit of blooming luck.
Indeed, you were right, it was Maurice Chevalier, with a little bit of luck, musique de Frédéric Love pour My Fair Lady, le film de George Cukor avec non pas Maurice Chevalier, mais Rex Harrison dans le rôle du professeur de phonétique et bien sûr Audrey Byrne, la merveilleuse, la délicieuse dans le rôle de la marchande de fleurs à l'accent cockney et à couper au couteau. C'est ce soir sur France 5 à 20h50. La Fair Lady de Musique Matin, c'est Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
On part pour la Suisse ce matin dans une roulotte de cirque.
Une roulotte en bois à l'ancienne qui transportait des clowns, des acrobates et leurs costumes, mais dans laquelle résonnent depuis un mois les notes de l'ouverture du Barbier de Séville de Rossini et autres tubes du répertoire classique interprétés par des musiciens de l'orchestre de la Suisse romande. Une initiative pas banale qui a germé en fait à l'automne dernier et que la crise sanitaire a permis de concrétiser. L'idée, c'était au départ de faire la promotion de la future cité de la musique de Genève. Le coup d'arrêt de l'activité des orchestres en mars a donné envie aux musiciens de créer vraiment cette scène ambulante. Le projet de roulotte est revenu sur le devant de la scène. Ce qui est intéressant et sympathique, c'est que les musiciens de l'OSR ont pris part à la concrétisation du projet. Un violoniste a trouvé la roulotte, ça tombait bien, un cirque vendait justement ses vieilles roulottes, et un tromboniste et un altiste ont convaincu le conseil de fondation de l'orchestre de débloquer les fonds nécessaires à l'achat et aux travaux pour créer une vraie petite scène de concert dans la roulotte. Pour les curieux, ces travaux ont coûté un petit peu plus de 28 000 euros. Hop, la roulotte est transformée, aménagée, peinte en jaune et violet pétard, et le 20 mai, le premier concert y est donné sur une toute nouvelle scène en bois de 24 mètres carrés. Autant vous dire que l'effectif est réduit, 5 à 10 musiciens, pas plus. Tractée par un camion, la roulotte a pu commencer ses tournées locales. L'intérêt du projet, outre son pittoresque, c'est d'aller à la rencontre des gens dans les cantons qui n'ont pas de salle de concert et les bourgades les plus isolées. La roulotte, elle fait surtout hâte dans les parcs, des centres médico-sociaux et des hôpitaux. Elle fait tout de suite son petit effet, son côté vintage et populaire inspire la sympathie et le public est enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il y a 15 jours, les musiciens de l'orchestre ont retrouvé leur lieu de travail habituel, la salle du Victoria Hall de Genève, après près de 3 mois d'absence, mais les concerts en roulotte ne s'arrêtent pas pour autant et la demande en Suisse francophone est en train d'augmenter.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Suzanne Gervais, Musique Connectée, c'est aussi sur francemusique.fr. Il faut aller dans Programme, puis Émission et Podcast. L'Orchestre de la Suisse romande, le voici. À demain Suzanne, quand même, soyons polis. C'est Coppelia et c'est signé Léo Delibes. Léo Delibes, le final de l'acte 2, la mazurka de Coppelia. C'était l'orchestre de la Suisse romande, dirigé par Ernest Ansermet.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
La musique reprend à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, à la tête de son Insula Orchestra. Laurence Equilbet retrouve dans quelques jours l'auditorium où elle est en résidence, un projet gratuit, ouvert à tous. La chef d'orchestre est notre invitée dans un quart d'heure. Et non, elle ne les avait jamais enregistrés. Sonia Widerhatterton enregistre enfin les suites pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach. Les deux premières viennent de sortir en disque. Une interprétation tout sauf neutre, elle est à découvrir dans une dizaine de minutes. Et puis, la musique classique est-elle un privilège des Blancs et des Asiatiques. C'est le titre d'une tribune à lire ce matin dans Le Figaro. On en parle avec Sophie Anastasio dans Classique Info, un peu avant 9h20. Pour l'heure France Musique, il est 8h30. Le journal, Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. C'est le fruit de 9 mois de travaux. La Convention citoyenne et ses 150 citoyens tirés au sort ont rendu hier leur proposition à la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Bonjour Véronique Rubérotte.
Bonjour.
Vous avez suivi ces travaux et noté de la part des citoyens beaucoup de fierté d'avoir porté des projets ambitieux, mais aussi une certaine fébrilité sur la manière de les faire perdurer.
Alors fierté déjà d'avoir réalisé un travail extrêmement sérieux, 149 propositions, sauf celle sur la réduction du temps de travail de 35 à 28 heures, elle a été rejetée. 149 propositions quand même au final, plutôt radicales pour changer en profondeur la société dans un souci de justice sociale. Alors il y a l'obligation de rénovation globale des bâtiments d'ici 2040, la diminution de l'usage des produits phytosanitaires en agriculture de 50% d'ici 5 ans seulement, la généralisation de l'éducation en l'environnement et également une renégociation du CETA par exemple, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, mais aucune de ces 149 propositions ne seront finalement soumises à référendum. Peur de ne pas trouver la légitimité auprès des Français et énorme regret pour William et Brigitte, deux de ces citoyens.
Le référendum, il n'y a rien de mieux pour discuter de citoyen à citoyen, pour le coup.
Mais c'est un ratage complet. Les 150 ont pris peur de présenter leurs mesures aux citoyens, puisqu'ils disent tous que ça va être rejeté. Peur d'être désavoué.
Voilà, aux parlementaires donc de trancher, il y aura quand même un référendum sur deux points et pas des moindres. Cyril Dion, l'un des garants de la Convention.
Leur choix est hyper intelligent parce qu'en fait, ils ont décidé que les questions référendaires seraient des questions juridiques. C'est la Constitution avec l'article 1er et le préambule. On a interrogé un peu en off Laurent Fabius qui a quand même confirmé que changer quelque chose à l'article 1 de la Constitution, ça changeait tout sur le plan juridique, dans la capacité ensuite de pouvoir arbitrer sur un certain nombre de cas de destruction d'écosystèmes. Et puis sur l'écocide, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils proposent d'avoir une haute autorité indépendante qui pourrait regarder toutes les lois et dire non, cette loi met en déséquilibre les limites planétaires. Donc d'une certaine manière, c'est une révolution.
Voilà, les 150 se sont regroupés en associations pour faire vivre leur travail.
Merci Véronique Rubérotte. Retour à l'école obligatoire ce matin pour les écoliers et les collégiens. Malgré le déconfinement mi-mai et la réouverture des établissements scolaires, beaucoup d'enfants n'étaient pas revenus en classe. Le gouvernement appelle les parents à avoir confiance en l'éducation nationale. Et si le cours normal des choses reprend très doucement en Europe, ailleurs la circulation du coronavirus reste très active, notamment en Amérique latine. Le Brésil compte désormais plus de 50 000 morts et 2 millions de cas confirmés. C'est le deuxième pays le plus touché sur la planète après les États-Unis. Sur le reste du continent, on dénombre plus de 20 000 morts au Mexique ou encore 8 000 morts au Pérou. Le Pérou qui a repoussé la réouverture du Machu Picchu, initialement prévue le 1er juillet. Européens et Chinois vont tenter de s'entendre aujourd'hui lors d'un sommet en visioconférence. Un sommet prévu initialement pour préparer une réunion et la signature mi-septembre d'un accord sur la protection des investissements. Mais d'autres divergences risquent de s'inviter. Les Européens s'inquiètent notamment de l'emprise de Pékin sur Hong Kong où les manifestations ont repris. L'UE avait aussi dénoncé les campagnes de désinformation menées par la Chine sur la pandémie de Covid-19. On apprend ce matin le rapatriement de 10 enfants de djihadistes français depuis la Syrie. Ils étaient retenus dans des camps de déplacés en zone kurde. Le rapatriement a eu lieu cette nuit d'après le Quai d'Orsay qui ne précise pas leur lieu d'arrivée. Depuis mars 2019, 28 enfants ont été ramenés sur le territoire français. Après 3 mois de salles désespérément vides, les cinémas rouvrent enfin à partir d'aujourd'hui. Et pour certains, pas question d'attendre ce matin quand on pouvait avoir un film dès minuit. C'est le cas de ce cinéma près de la gare Saint-Lazare à Paris où réalisateurs et acteurs ont accueilli en personne les spectateurs en respectant évidemment les consignes sanitaires. Mathieu Culeron était sur place.
C'est vachement bonne.
Ouais.
Si, non ?
Il est minuit une, le film Les Parfums avec Emmanuel Devos et Grégory Montel est diffusé en avant-première. Devant la salle, le plus ému, c'est Samuel Merle, programmateur et gérant du cinéma Les Cinq Comartins.
Ça fait 99 jours que l'ancienne cinéma bleue est éteinte. C'est comme l'an 2000, quand j'avais 16 ans. C'est plus que ça, je suis tout excité. J'habite dans le cinéma, juste au-dessus, donc je passais ma vie dans les salles, à nettoyer, à ranger, à faire des tests de projection, à me regarder des films tout seul. La fête est là, le champagne est là, et surtout le cinéma est là, et les sièges rouges sont enfin remplis.
Bonne soirée, bon film, merci.
Le public, nombreux, lui, s'est précipité à cette séance exceptionnelle pour défendre une certaine idée du cinéma.
C'est vrai que c'est une chose qu'on n'a pas faite depuis bien longtemps.
Donc retrouver les sons, les gens, les ambiances, les odeurs.
C'est une sensation un petit peu particulière vu l'heure tardive, mais on tenait à être là tous les deux ce soir.
Le cinéma, le spectacle, le théâtre, le concert, voilà. Tout ça, c'était manquant. Maintenant, ça revient. Le concert, j'y étais tout à l'heure et le théâtre, ça sera demain.
Vous êtes heureux, là ?
Ah oui.
Le cinéma Les Cinq Comartins qui a fait vibrer hier soir à l'unisson pour la première fois son public depuis 3 mois.
Un reportage de Mathieu Culeron. Un mot de météo pour terminer ce matin. On retrouve des résidus d'une perturbation de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est avec beaucoup de nuages et des ondées en Auvergne. Partout ailleurs, le soleil domine. Les températures entre 8 et 14 degrés sur la moitié nord, de 12 à 17 au sud et même jusqu'à 21 degrés dès ce matin sur les plages méditerranéennes. 8h35 sur France Musique avec Jean-Baptiste Urbain pour la suite de Musique Matin.
C'est le journal de Laura Dulieu qu'on retrouve demain. Vous évoquiez ce cinéma de minuit, si on peut dire. Les cinémas rouvre en effet aujourd'hui. À Paris, la Cinémathèque française va attendre un peu encore pour lancer sa grande exposition consacrée à Louis de Funès. Elle commence à la mi-juillet. Mais Louis de Funès et la musique, Laura, c'est un compagnonnage qu'explore d'ores et déjà France Musique avec Thierry Jousse et Ciné Tempo. C'est le samedi à 13h. Si vous avez raté celle d'avant-hier, il y a le podcast. Et puis la seconde émission consacrée au génial acteur français, ce sera samedi prochain. Avec bien sûr les bandes originales, notamment Vladimir Cosma, mais aussi du répertoire classique. Vous savez, la marche hongroise de La Damnation de Faust avec Stanislas Lefort à l'Opéra Garnier, c'est la grande vadrouille, mais aussi cette scène hallucinante dans le Cornio ou en Italie. Louis de Funès répare sa Cadillac sous l'œil médusé du garagiste et de son fils. Une scène chorégraphiée à la seconde près sur la Danza de Rossini. Rossini, La Danza, enregistrée, ça ne vous aura pas échappé, en public en 2014 à Londres, au Wigmore Hall. C'était la voix de Joyce Di Donato avec Antonio Papano au piano, grand chef d'orchestre mais aussi pianiste, accompagnateur fétiche de la médo américaine. Ce soir à 20h, c'est bien comme chef qu'Antonio Papano à la tête de l'orchestre américain des jeunes accompagne donc Joyce Di Donato, concert donné à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg et présenté par Clément Rochefort. France Musique, il est 8h40, tout juste, voici Classique Info. Avec Sophia Anastasio, bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec les hommages nombreux rendus à Nicolas Joël, mort jeudi dernier.
Sa disparition laisse un silence profond dans le monde de l'opéra, écrit le ministre de la Culture, Franck Riester. Par ses engagements hors du commun, Nicolas Joël aura marqué l'histoire du spectacle vivant, a réagi l'Opéra de Paris. C'était un formidable directeur, pas un théoricien, il avait un souci de l'artisanat du théâtre, explique Christophe Gristy, directeur actuel du Capitole. L'institution lui rendra hommage ainsi qu'à Maddy Mesplet au cours d'une soirée jeudi prochain.
La limitation de la demi-jauge élevée non seulement pour les cinémas mais aussi pour les salles de spectacle.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, l'a annoncé hier sur Europe 1. Il n'y a plus de limitation de 50% de jauge. En revanche, a-t-il précisé, on laisse un siège d'écart si on ne connaît pas les gens assis à côté de nous.
Et parmi les salles qui vont rouvrir, l'Opéra Comique, elle annonce sa réouverture pour samedi prochain.
L'Opéra Comique proposera jusqu'au 4 juillet une version réaménagée de Cabaret Horrifique de Valérie Le Sort. Artistes et publics seront réunis sur scène dans le respect des normes sanitaires, indique un communiqué.
Aux États-Unis, en revanche, le Carnegie Hall restera fermé jusqu'à la fin de l'année.
La salle new-yorkaise ouvrira à nouveau ses portes le 7 janvier seulement. Le New York City Ballet annule également sa saison d'automne et avec son traditionnel casse-noisette de fête de fin d'année. C'est la première fois depuis sa création par Balanchine à New York en 1954 que la compagnie est privée de cette version. L'année dernière, le ballet avait été donné pendant 5 semaines et avait rapporté plus de 15 millions de dollars, rappelle le New York Times.
Dans la presse ce week-end, Le Figaro qui revient sur la descente aux enfers, ce sont ces mots de l'Opéra de Paris.
Terminer ainsi un mandat de 12 ans, c'est difficilement supportable, déclare Philippe Jordan, directeur musical de l'Opéra, dont la fin de l'année 2020 devait clore le mandat, justement. Frustration, tristesse, déception, colère, il fait part de ses sentiments, sentiments partagés par les 1500 salariés de l'institution.
Et le directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, qui a annoncé son départ anticipé à la tête de l'institution, eh bien il sera notre invité pendant une demi-heure après-demain, mercredi, de 8h30 à 9h. Il répondra à toutes nos questions. Toujours dans le Figaro Sophia, la musique classique est-elle un privilège des Blancs et des Asiatiques?
La question est posée par Paul May, professeur de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Il analyse la situation aux États-Unis où la musique classique, pratique culturelle de l'élite aujourd'hui en déclin, est accusée d'être inadaptée à la diversité ethnique croissante du pays, écrit-il. Elle doit se transformer sous risque tout simplement de disparaître. Il y a des chiffres. Selon un rapport publié en 2016, les Noirs ne représentent que 1,8% des membres d'orchestre, les Latino-Américains 2,5%.
C'est une tribune à lire dans le Figaro ce matin. Sophia Anastasio, elle est sur France Musique tous les jours. On vous retrouve donc demain à 8h40, mais aussi sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. À demain, Sophia.
À demain.
France Musique.
France Musique. Vous allez l'adorer.
Notre disque du jour est sorti à l'occasion du Disquaire Day. Il avait lieu en France ce week-end. Eh bien, c'est la première fois, toute première fois, que Sonia Vider-Atherton grave les suites pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach. L'enregistrement a eu lieu, apprend-on, la nuit, en pleine nuit, à l'abbaye de Noirlac, dans le Cher. Pour moi, jouer les suites de Bach, dit Sonia Vider-Atherton, c'est toujours à un moment ou à un autre voir l'image des mains de Giacometti modelant la terre inlassablement jusqu'à ce qu'apparaisse un visage, voir ses mains être en prise avec une matière. Alors voici ce que les mains de la violoncelliste font du prélude de la première suite. Tempo retenu, des accentuations, des ralentis, bref, une réelle interprétation.
Thank you.
Qui devrait trancher et qui ne plaira pas à tout le monde, le prélude de la première suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach, parce que c'est une vraie interprétation signée Sonia Wider-Atherton, un nouveau disque paru chez Alpha avec les deux premières suites. Les quatre autres arriveront, elles, cet automne. France Musique, 8h47.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et c'est l'heure de rejoindre, de joindre plutôt notre invité, puisqu'on est encore au téléphone. Et ce matin au téléphone, c'est la chef d'orchestre Laurence Equilbet. Bonjour.
Bonjour.
Directrice musicale, fondatrice d'Insula Orchestra. D'abord, Laurence Equilbet, est-ce que vous avez passé une bonne fête de la musique? Qu'avez-vous fait?
Écoutez, c'était vraiment très émouvant parce que grâce à la Philharmonie de Paris et la Fondation Bettencourt, nous avons pu mettre en œuvre un projet avec Leonardo Garcia Alarcón, autour des polyphonies romaines et son ensemble Capella Mediterranea. Donc on a commencé par une surprise devant le public, un peu sur l'escalier monumental de la Philharmonie. Et puis ensuite, on a fait une captation, enfin ils ont fait donc une captation avec Accès Tous pour France Télévisions de toutes ces musiques polyphonies romaines avec du Scarlatti, du Giorgi, évidemment le Miserere d'Allegri, et c'était avec des lumières très 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 douces. C'était une atmosphère, on n'était que quelques-uns pour pouvoir assister à ça. Parce que c'était pas ouvert évidemment encore, mais en tout cas c'était le renouveau de la musique en live, c'était quelque chose de très très émouvant.
À voir donc en vidéo, on va parler dans quelques instants, Laurence Equilbet, du retour du public, ce qui va se passer dans quelques jours à la scène musicale où vous êtes en résidence. D'abord, ces semaines, ces mois même, inédits pour nous tous, vous, comment les avez-vous vécues?
Écoutez, ça a été difficile parce que très très vite, ouvert ce confinement, en tout cas nous, notre projet à la scène musicale, avec le départ de Patrice Devedjian, qui était le fondateur de notre projet, enfin en tout cas de la scène musicale, avec qui j'ai posé cette première pierre, et même choisi les fauteuils de la salle et tout, donc on a été vraiment bouleversés, parce que c'est quelqu'un qui, pour qui la culture était absolument essentielle, et l'art était essentiel. Donc, on aurait presque pu trouver ce moment intéressant du point de vue de humain, je pense, mais c'est vrai que ça a été un peu difficile le début, et puis ensuite, bah, comme tout le monde, c'est très compliqué de devoir annuler toute une programmation. Pratiquement, il nous restait beaucoup de mois avec énormément de projets, donc on s'est attaché à être attentif à toute l'équipe, que ce soit les salariés permanents, tous les intermittents qui étaient empêchés de faire leur travail, donc comme tout le monde, hein. Puis après, moi, j'en ai profité aussi pour prendre de l'avance sur des partitions, comme tous les musiciens. Hein. Mmh. Je suis mise à la table de nombreuses heures par jour. Voilà, enfin, après tout ça, et maintenant derrière nous, j'espère.
Laurence Aquilbès, et moi à l'arrêt, quand même, ça peut mettre en difficulté un ensemble composé de musiciens intermittents, comme Insula Orchestra.
Ah, tout à fait. Avec tous ces sous-là, on va souffrir surtout en 21, d'ailleurs. Ça, j'alerte aussi un petit peu pour dire que 20, peut-être, ça passe juste, et encore. Mais parce que en tout cas chaque c'est formidable le chômage partiel évidemment, mais chaque annulation finalement nous coûte de l'argent parce qu'on a des charges quand même. Et puis donc il y a des charges qu'on s'est très dégradé maintenant nos perspectives de billetterie et de mécénat. Et du coup, 21 ne passe plus du tout, donc c'est là que ça devient vraiment très compliqué.
Alors regardons vers l'avenir et l'avenir proche.
Oui, voilà.
La musique va revenir dans quelques jours, Laurence Aquilbès, et vendredi prochain à la scène musicale. Que va-t-il se passer?
Voilà, écoutez, c'était un signal fort que je voulais envoyer, en tout cas le 21 juin à Accentus et la Philharmonie de Paris, parce que c'est un partenariat très très ancien et on aime beaucoup jouer là-bas. Et donc le Insula Orchestra, cet orchestre qui est donc développé par le département des Hauts-de-Seine à la scène musicale, et je voulais vraiment aussi un signal aussi tôt que possible avant la rentrée, en tout cas avant l'été. Et donc le 26 juin, on fait un grand gala Mozart, parce que en janvier, j'ai enregistré un disque avec... six solistes formidables avec Insula et six solistes, c'est Léa Desandres, Stanislas Barbera, qui avait Jody DeVos, Florian Santé, Sandrine Pio, Loïc Félix. Et tous ces solistes fantastiques me font l'amitié de venir faire ce gala Mozart pour signaler le retour, le renouveau de la musique à la scène musicale. Il y en a beaucoup parmi eux qui avaient déjà fait l'ouverture de la scène musicale, c'était en avril 2017. Et du coup, on fait tout un répertoire qu'on a enregistré pour Warner en janvier, qui devait sortir là, parce qu'on a un spectacle qui s'appelle Magic Mozart, qui est un spectacle avec la compagnie de magie nouvelle 1420. Donc on a dû annuler en juin et qu'on reprend en novembre, heureusement. Et là, on fait tout le répertoire sous forme de gala, le répertoire de ce projet. Mais le nouveau, si vous voulez, c'est qu'on a prévu ce projet avant de savoir qu'on pouvait éventuellement ouvrir. Donc on va le diffuser sur le grand écran pour tous, c'est gratuit. Et malheureusement, on est un peu limité dans les places, il n'y a que 300 places pour des raisons sanitaires, mais c'est l'écran le plus grand d'Europe. Et c'est la première fois, je crois, qu'il va y avoir un concert classique diffusé en live, comme on dit, en direct, sur ce grand écran. Et en plus, j'ai vraiment voulu inviter beaucoup de gens du département issus du champ social. Il y a des patients à l'hôpital de jour de Valakoff, il y a un groupe de veille actif de jeunes dont on s'occupe, etc. Il y a énormément de gens qu'on a invités spécialement aussi pour la réouverture de ce lieu.
Rendez-vous donc vendredi à l'auditorium pour les chanceux et pour tout le monde. Et c'est gratuit, bien sûr, dehors pour cet écran géant live et pour ce retour de la musique et de Mozart. Vous l'avez dit, Laurence Aquilbès, Mozart, c'est un disque. Il aurait dû sortir au printemps. Il va sortir à la rentrée. Mais on va en écouter en avant-première un extrait. Ça s'appelle Magic Mozart avec la musique de Mozart. Mais aussi quelques effets spéciaux sonores dans le même esprit que les concerts, d'ailleurs, que vous proposez à la scène musicale et qui donnent un souffle nouveau au concert traditionnel. Là, on va entendre l'une des plus belles pages, à mon sens, de Mozart dans Così fan tutte, le trio Suave, soit le vent, Suave, sia il vento, avec un petit vent à la fin.
Oui, c'est ça, parce que comme c'est un disque d'extrait, on a peut-être en fait des enchaînements grâce à des subterfuges sonores comme ça qui permettent tout d'un coup de se propulser dans une autre atmosphère.
Rendez-vous donc en septembre pour écouter tout le disque, mais merci, on a en avant-première, un petit extrait et rendez-vous vendredi prochain. Tendez bien l'oreille à la fin, comme dans les coquillages, vous allez entendre le vent. Merci Laurence Aquilbès.
Merci beaucoup, hein. À bientôt j'espère.
À bientôt.
Oh.
Et voilà, et donc le vent, et je corrige, hein, c'est la mer qu'on entend dans les coquillages, et non pas le vent, le trio de l'acte 1 de Così fan tutte de Mozart, Suavecia et il vento. Léa Desandres, Sandrine Pio, Florian Sempé, Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet. Ne cherchez pas, le disque ne sort qu'en septembre, c'est une avant-première. France Musique. Musique Matin, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Xavier Atto et Emmanuel Rose à la technique, Yacine Bouzard à la réalisation, Marion Guillemet, Taïsia Froidure, Margot Muller à la coordination. Demain, notre invité sera le chanteur Philippe Jaroussky.
À réécouter sur francemusique.fr.